There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de l'histoire de Yann Koum et Brian Acton, deux gars qui ont fait un pied de nez au destin, qui sont accrochés à la vie et ça leur a été plutôt bénéfique, mais on va voir pourquoi.
Comme tu disais, c'est des anciens.
Je ne l'ai pas vraiment dit, mais ce sont, si vous voulez que je vous raconte toute l'histoire, ce que je peux faire, ce que je vais faire d'ailleurs, ce sont des anciens développeurs de chez Yahoo. En 2007, ils étaient chez Yahoo, les man, et ça allait bien et tout, mais c'est l'exode rural à la Silicon Valley, il y a des trucs dans tous les sens, il y a des énormes groupes qui sont en train de péter tout le game et tout. Donc les deux gars là, ils se disent, bon allez, on va sortir de Yahoo, dans lequel on était bien, mais tranquille, et on va aller se mettre des nouveaux challenges, quoi. Donc, ils quittent Yahoo, les man, et ils vont toquer à la porte du plus gros monstre de la Silicon Valley du moment, c'était Facebook. Voilà, c'était en train de vraiment tout déglinguer sur son passage. Et donc, les deux gars qui ont tout quitté, ils font leurs entretiens, c'est cool, ils font les tests techniques, c'est cool, etc. Mais recalés, les deux gars. Recalé de Facebook. Et du coup, non, ils
entrent... C'est les anciens Yahoo.
Donc... C'est les anciens Yahoo, c'est quand même des...
Il y a un truc avec Yahoo, on est d'accord ? Que Yahoo, à l'époque, les ingénieurs qui étaient là-bas, ils étaient tous trop... On les voit partout et ils sont trop forts. Tu sais, c'est comme la secte des gens de PayPal, ceux qui travaillent à PayPal, qui ont fondé la boîte, ils sont dans des positions de fous, là.
C'est vrai que j'ai une histoire sur deux, c'est des anciens Yahoo. Mais je te jure, le problème, c'est que là, pour l'instant... Ils sont nuls, puisqu'ils se font recaler de Facebook.
Ouais. Bah écoute, ça donne surtout une idée de à quoi ça ressemble Facebook à l'époque. C'est vraiment, ils attirent les plus gros cerveaux de la Terre entière. Donc la concurrence est tellement rude que même deux gars assez stylés de chez Yahoo se font têche, quoi. Et ils rentrent dans ce fameux club des recalés de Facebook. C'est les gros ingés qui, finalement, n'ont pas été pris, quoi. Donc, à partir de là, c'est un peu la désillusion, la douche froide, j'ai envie de dire. Et s'ensuit deux ans d'errance, en fait, pour ces deux gars-là. Pendant deux ans, ils savent pas trop quoi faire. Ils ont pas envie de rentrer dans la première boîte qui passe. Ils ont pas envie de non plus créer un produit de merde, etc. Donc, voilà. Pendant deux ans, ils se cherchent un petit peu. Et ils vont... faire plusieurs réalisations pendant ces deux ans qui vont les mener à un nouveau projet sur lequel ils vont se lancer. Donc, dans ces réalisations un petit peu particulières qu'ils font pendant ces deux ans, il y a primo, le gars là, qui s'appelle Yann Koum, il est ukrainien. Et il a en mémoire le fait que ses parents, à ce moment-là, ils n'osent pas trop se parler au téléphone parce qu'ils ont peur de se faire écouter par le gouvernement russe, en fait. Je ne sais pas si on appelle ça le gouvernement russe, le Kremlin, on va dire. Ils ont peur de se faire espionner leur conversation, etc. Donc, à ce moment-là, dans Yann, il y a un peu cette idée de la sécurité, le chiffrement, ou tout ça. Enfin, c'est un truc sur lequel on aimerait bien bosser. Mais bon, pas suffisant pour se lancer dans une aventure ou faire quoi que ce soit. Il y a aussi le fait que s'envoyer des textos, ça coûte cher, c'est chiant à travers les pays en tout cas, et quand il décrit à ses parents, ça lui coûte une couille et ça l'énerve, quoi. Donc il y a ça qui est là, mais surtout, la giga révolution, le gros truc qui arrive et vraiment qui leur met le dernier coup de fouet qu'il leur fallait pour s'y mettre, il y a l'iPhone qui sort. Et surtout, il y a Apple qui arrive et qui dit, ben voilà, on va créer une marketplace d'applications. Et là, les deux man, ils se disent, bon d'accord, là, il y a un truc à jouer, là. Il faut qu'on crée une app, quoi, en gros. Donc, c'est cette végétation pendant deux ans, toutes ces idées-là qui bouillonnent comme ça et tout, et qui nous amène en 2009, exactement, en 2009, ils se disent, ils créent le premier WhatsApp. Alors, qu'est-ce que c'est WhatsApp en 2009, le POC de WhatsApp? C'est juste une application pour mettre à jour des statuts. Genre en train de faire des courses, en train de... plus de batterie. Voilà, tu mets à jour tes statuts, un peu comme ce que tu faisais sur MSN à l'époque. Et c'est toujours une fonction, d'ailleurs, qui est toujours disponible aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, moi d'ailleurs, je l'ai jamais changé, j'utilise tellement pas ce...
Je ne sais pas qui utilise ça, je ne comprends pas.
Il y a des gens qui le mettent à jour parfois.
Mais attends, l'énergie que ça demande de constamment mettre à jour ton statut.
C'est infernal. Et moi, mon truc, c'est toujours...
C'est automatisé.
Ouais, un truc qui observe toute ta vie constamment.
Non, en fait, c'est le mot. On arrête ?
Non. On coupe.
Arrêtez avec l'automatisation. Moi, pour tout vous dire, j'ai tellement automatisé que c'est toujours le truc de base, genre, hey, j'utilise WhatsApp. C'est ça qui est actuellement sur mon truc, et je pense qu'il est sur le WhatsApp de beaucoup d'entre nous, parce qu'on a tous rien à foutre de ce machin. Mais bon, très vite, c'est pas mal, ça prend un petit peu, mais très vite, là, il y a les notifications push là, de iPhone qui débarquent, et là, à ce moment-là, ils disent « Ouais, il y a un truc aussi à jouer sur les notifications push, etc. » Et voilà, très vite, ils arrivent à transformer l'essai et à créer un système de messagerie, ce qui va devenir le WhatsApp que l'on connaît tous, qui propose du coup... une messagerie sécurisée, la vieille idée pour arrêter de se
qui
faire...
Qui est assez révolutionnaire à l'époque.
Qui est assez révolutionnaire, tout à fait, et qui permet enfin de plus se faire espionner par quiconque. Pas de stockage sur des gros serveurs de WhatsApp, etc. Pas de pub, pas de vente de données personnelles. Et en fait, le seul truc que ça te demande, c'est un numéro de téléphone pour t'inscrire. Donc à ce moment-là, il débarque avec cette offre qui est complètement folle et inégalée. Et donc,
déjà, le concept de base d'envoyer des messages mais qui ne sont pas des SMS, est-ce que ça devait être déjà bizarre, non ?
Ouais, c'était bizarre. Moi, j'ai loupé le coche à ce moment-là quand WhatsApp est arrivé. Moi, je me dis, les SMS, ça marche bien. Et il y avait iMessage qui marchait bien aussi sur les iPhones. Donc, pendant très longtemps, moi, j'ai pas eu WhatsApp, quoi. Mais pour certaines situations, pour les gens qui communiquaient entre Android déjà, ou pour plein d'autres gens, pour les gens qui voulaient pas être espionnés, justement, ce truc sécurisé, ça faisait sens de ouf. Et donc, il y a énormément de gens qui s'y ont mis.
La probabilité, comme souvent, c'est que t'as 99% des gens, c'est parce que c'est gratuit qu'ils sont
oui,
là.
Oui, tout à fait.
Et un petit pourcent, c'est parce que c'est sécurisé.
Absolument.
Mais c'est pas grave.
Toujours est-il qu'ils ont trouvé l'offre et l'accroche pertinente à ce moment-là, ce qui fait que le bouche à oreille s'est mis en branle. Ça a été un succès immédiat. Et très vite, dès 2009, ils se sont retrouvés avec 1 million d'inscrits par jour. Par jour.
Waouh.
C'est pas rien quand même.
Ouais.
Première année, tu sors ton bousin. 1 million d'inscrits par jour, c'est une dinguerie. La conséquence de tout ça, c'est que WhatsApp, en 2009, c'est 32 personnes. Et,
C'est rien.
C'est
très,
rien.
Très peu.
C'est peu.
Rien.
Surtout pour du 1 million d'inscrits par jour, c'est très peu.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Et 32 personnes qui ont littéralement tué le SMS en un an. Alors voilà, là, on est dans la success story WhatsApp, on se dit, bon, c'est trop bien, etc. Mais comme toute boîte qui grossit trop vite, ou qui grossit très très vite, il y a le risque de scale comme de la merde et de faire n'importe quoi et de te planter.
C'est un moment très important, ouais.
C'est très important. T'as de l'or entre les mains, mais il faut pas en faire de la merde. Et les opportunités d'en faire de la merde sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on fait WhatsApp pour éviter le naufrage et pour gérer une telle croissance ? Je vais prendre ma petite tablette ici, parce que je vais en avoir des choses à vous dire ici. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, à ce moment-là, WhatsApp, c'est 50 milliards de messages par jour.
Attends.
Pour 32 personnes.
Ouais. Là, j'ai envie de faire un calcul.
Je vous laisse.
Personne, ça fait combien, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Sachant que chaque ingénieur doit valider chaque message à la main, je vous laisse compter combien ils doivent dire OK.
Pour moi, je veux savoir.
C'est une bêtise. C'est une
combien
scandale.
Ça fait par seconde pour capter vraiment le scale du truc.
Bah, écoute, une calculette.
Ouais, le chat.
Le chat. Dites-nous.
Calcul chat.
Ça fait combien par seconde ? Ah tiens, on a la régie qui nous fait le calcul.
Oh, trop, ils sont trop forts. Attends, quoi ? Ils n'ont pas fait le calcul à l'envers ?
C'est des milliards, oui, divisé par 3600 fois 12.
Donc ça fait 13 millions par...
Non,
c'est pas fini. C'est pas fini.
3600 fois 24, il faut le mettre entre parenthèses le fois 24. Voilà, plus de 500 000 messages par seconde.
578 000 messages par seconde ?
Ouais.
Mais attends, parce que du coup, ça fait 500 messages par milliseconde, là ? Par millisecondes.
Ouais, ouais. 500 messages par
millisecondes. Oui, bon, ça va, c'est rien.
Bon,
arrêtez de...
Je pense que c'est dur à conceptualiser pour beaucoup de gens que c'est pas gagné du tout, en fait. C'est que tu développes un développeur qui crée une plateforme de messagerie.
Mm-hmm.
Il est impossible.
Tu te fais des doses.
Tienne ça. Non, mais
tu te fais des doses, littéralement. C'est...
Un millième de millième de millième de ça et... Le moindre serveur, voire data center, explose en fait.
Tu peux même pas wait une milliseconde en JS.
Et là, oui, c'est vrai.
Donc en fait, le truc a pas le temps de boot, il a loupé, il a 500 messages dans la queue en fait, déjà, c'est trop tard.
Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de s'arrêter là-dessus, c'est qu'il y a 32 ingénieurs.
Ouais.
Et ils ont réussi à faire un système, mais dès le début, on a l'impression. qui tient, qui est capable de tenir cette charge-là. Comment c'est possible ?
Très, très rapidement. Eh bien, justement, on va voir un petit peu tout ce qu'ils ont mis en place pour réussir à gérer tout ce bordel, parce que ça allait très vite. Donc, le premier truc qu'ils ont fait, c'est de ne pas faire l'erreur de tous les autres groupes du moment, tous les Amazon et compagnie, c'est de ne pas s'éparpiller. C'est de se focus en une feature. Eux, ils voulaient deliver du message, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas rajouté... au tout début, ajouter des vidéos, faire du... Cette image est très bonne. C'était exactement. Donc, eux, ils se sont vraiment concentrés. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point qu'ils ont fait. Le deuxième point, c'est qu'ils ont capitalisé sur l'existant. Ils n'ont jamais tenté de réinventer la roue parce que tu crées trop de failles, tu crées trop de problèmes et tu dépenses trop à vouloir réinventer des trucs from scratch, quoi. Donc, eux, ils ont utilisé ce truc qui s'appelle Edgebird. Le nom, il est sauvage de ouf. Genre, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça et de quelle origine. J'aurais peut-être dû pousser un peu plus la recherche, mais ça s'appelle Edgebird. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un. Je me le suis noté là ici. C'est pour ça que je m'étais pris cette petite note. Et ben, je suis perdu. C'est un serveur de messagerie en temps réel et open source. Donc, ils ont utilisé ce bordel pour les notifications push. Ils ont utilisé le Google Push, voilà, de manière à réinventer des trucs trop costauds. Ensuite. Quand tu as autant de messages à gérer, autant de trucs à gérer en même temps, il faut forcément avoir une infra qui suit. Alors, pour scale une infra, tu as deux choix potentiels. C'est que tu peux soit scale horizontalement, c'est-à-dire tu as un PC qui a envoyé 10 messages par seconde, tu vas mettre 50 PC qui vont envoyer 10 messages par seconde, c'est cool. Ça, c'est le scale horizontal. Ou alors, tu peux faire que ton PC, il envoie, avec tu scale vertical, il va envoyer 100 messages par seconde. Eux, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont scale diagonal. Ils ont dupliqué le nombre de machines et ils ont aussi augmenté la performance de chaque machine. Voilà. Donc ça, c'est pour leur infra.
Ce qui nécessite que tu aies une application déjà qui soit conçue pour tirer profit de nouvelles de ressources supplémentaires.
Ouais.
Ce qui est pas, si je dis pas de conneries, c'est pas si évident.
Ben non.
C'est-à-dire que ton application doit être conçue pour utiliser, par exemple, un maximum de cœurs de ton CPU.
Je fais encore un parallèle pourri avec le JS, mais c'est mort déjà si c'est en JS, tu vois ce que je veux dire.
Ou alors, il faut avoir plein de serveurs qui tournent sur le même.
Ouais, c'est ça, mais tu peux pas scale diagonalement aussi bien en JS que dans un autre langage. Rien qu'aussi en C++, les threads, c'est basé sur les threads de l'OS, c'est pas les threads dans le langage, du coup, tu pourrait pas non plus.
Mais on va parler de langage. On garde ça pour un tout petit peu plus tard, le langage.
Okay. Parce qu'il y a de la magie qui se passe dans le langage, justement, qui n'est pas un langage comme les autres.
Non.
On va y venir.
Absolument.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Les deux derniers points qu'ils ont mis en place pour scale correctement et pas se planter, pour moi, c'est deux points très très importants. Le premier. C'est que ils ont fait du data-driven development. C'est-à-dire que tous les développements qu'ils ont faits ont toujours été backés par de l'analyse de la data. Ils ont tout mesuré, tout mesuré. Donc ils se sont créés des dashboards de cochons, ils ont mesuré les bonnes choses dans tous les sens et ils ont réussi à analyser correctement cette data. Ces trois points, c'est assez... Ça paraît évident, tu dis toute boîte mesure ces choses-là, etc. Mais ça ne l'est pas nécessairement. En fait, mettre en place des mesures dans une boîte, c'est crucial, mais c'est complexe. Il ne faut pas prendre tout n'importe quoi, il faut savoir quoi remonter, il faut savoir comment analyser tout ce bousin. Et avec 50 milliards de messages par jour, on a dit, vous rendez compte qu'il y en a des choses à analyser dans tous les sens. Donc eux, ils ont tout analysé et ils ont réussi à l'analyser. Ils ont tout réussi à monitorer et ils l'ont analysé de telle sorte à dire « Ok, là, on a une surcharge à ce niveau-là, il faut faire un développement crucial, important, tout vite, sur cette partie-là. Là, ce truc-là, il est chiant et tout. » Ils savaient sur quoi à s'appliquer. C'était pas juste un product manager qui était là et qui disait « Ouais, ça serait bien de faire ce truc. » J'ai l'impression que le public et les clients attendent ça et tout. Non, là, franchement, c'était vraiment... Tout était
orienté par la donnée.
Par de la donnée, quoi. Et c'est trop bien. Si les boîtes pouvaient faire tout ça aujourd'hui, on aurait des produits beaucoup plus stylés. Ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Ce que tu n'as pas toujours constaté en tant que développeur ?
Non, c'est pas toujours. Parfois, on navigue un peu au doigt, comme ça. On fait « Ah, ça serait bien !» Justement, l'exemple du product manager, product owner qui décide des trucs un peu comme ça. En général, ils font bien leur métier. Et justement, ils essaient d'avoir de la data pour pas dire un truc qui sort de nulle part. Mais bon.
Le terme pour ça, je l'ai totalement oublié, c'est feature...
Feature driven...
Feature sick, feature... Quand t'as trop de features.
Feature sickness, feature...
Ouais, quelqu'un dans le chat l'aura, je l'ai plus là, mais ouais.
L'autre point qui est hyper important pour moi, et vous avez bugué tout à l'heure sur le nombre de personnes qui travaillent dans cette boîte, 32 personnes, et bien ils s'y sont tenus. Ils n'ont pas voulu prendre plus de gens, parce que plus de gens, c'est plus de discussions, plus de réunions, plus de galères, plus de trucs dans tous les sens, plus de gens à former, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils allaient faire une sorte d'escarmouche là, bien compacte, bien solide, bien, et bien stylé, bien fort, et ils vont avancer comme ça ensemble. 32. Ils n'ont pas dépassé ce chiffre. Alors peut-être qu'après, quand, plus tard, ils ont fini par le faire, mais pendant longtemps, en tout cas, pendant ces développements des premières années, ils sont restés 32. Alors ça, les 32 légendes de WhatsApp, j'ai envie de tous les retrouver.
Ils ont dû être sélectionnés très finement.
32 big boss, là.
Ouais. Bah, c'est 32 recalés de Facebook, probablement, et ils devaient être...
Ils ont un t-shirt avec le numéro et tout.
Ouais. Ils préparaient leur vengeance pour se faire racheter un milliard, je ne sais plus combien.
On garde ça. Faut pas dire combien ils se sont fait racheter, sinon l'histoire n'a plus aucun intérêt.
Ce sera coupé.
Alors, ils ont réussi leur scaling grâce à toutes ces petites méthodes qu'ils ont mises en place. Maintenant, on va, avant de voir le fin mot de l'histoire et de voir ce qui est advenu de nos deux CIO de légende, là, comment ils sont sortis de toute cette histoire, on va aborder un petit peu l'histoire du langage, enfin... Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme langage pour coder WhatsApp? Parce que, vu ce qu'on a calculé tout à l'heure, là, le JavaScript, c'était hors de question. Le Rust, ça n'existait pas encore. Et puis, de toute manière, on a dit que Rust, ça chipait rarement. Un peu plus tard.
Je lance pas des trucs comme ça, là.
Là, je sais pas, lancer un gros pavé dans la mare, ça va se tuer.
Allez, tout le monde est réveillé.
Bref, est-ce que vous avez une idée de en quoi, dans le chat, là, est-ce que vous avez une idée de en quoi a été développé WhatsApp?
Il y a quelqu'un qui dit quel langage? C ou Python.
Python, c'est mort.
Python, c'est mort.
C'est archi mort, déjà.
Bah ouais, parce que... parce que quoi?
Je vois du Go...
Parce que c'est lent, c'est nul, c'est pas petit.
Je vois du Go, du Java, du Cobol...
Java, c'est mort, la JVM,
Elixir, de l'assembleur, du Pascal. Bon, je l'ai pas lu. Il y a également du Erlang.
Erlang, ce truc qui te fait fourcher la langue, justement, quand tu le prononces... Erlang.
Ça ressemble à une langue dans Harry Potter.
C'est
cool. Tu parles à l'envers.
Je sais pas comment ils ont inventé ce.
Je parle Erlang là.
Ouais, c'est pour ça. Et ils codent comme ça, les gens. Bref, c'est du Erlang. Alors, personne ne connaît. Micode, tu connaissais?
Oui, je connaissais, mais j'en ai jamais fait.
Je savais que tu connaissais. Tu parles à trop de gens de la tech pour ne pas connaître. Tu connaissais l'Erlang?
Ouais.
Non, si, comme moi, dans le chat, il y a des gros navets avec zéro culture informatique, moi, je connaissais pas. Et. Je me console en me disant que les deux CIO de WhatsApp ne connaissaient pas non plus du tout Erlang. Hein. Donc ça va.
Faut être honnête, c'est un langage niche. Si tu regardes un pie chart des langages utilisés, c'est très très niche.
Mais c'est hyper niche. Ça répond à des besoins hyper précis, type 50 milliards de messages.
Absolument. Mais pourquoi ils s'y sont mis à la base à Erlang quand même, alors qu'ils ne connaissaient pas, etc. Ça semble pas un peu contre-intuitif quand même d'aller dans un langage que tu connais si peu. J'imagine qu'il y avait quand même d'autres langages qui permettaient de répondre à ces problématiques. Mais en fait, c'était utilisé par Edgebird, ce truc de messagerie qu'on a vu plus tôt. Et comme on l'a vu, les deux CIO, là, ils détestent la friction, ils détestent rajouter de la contrainte et de la friction dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc ils se sont dit, bon, vas-y, Edgebird, on va l'utiliser comme brique principale. Ils utilisent Erlang, on va s'y mettre.
Pareil.
Point barre.
Pas
point
plus de réflexion.
Et aussi... Erlang, c'est pas pour rien qu'Edgebird l'utilise, c'est hyper bon pour le temps réel et pour la haute disponibilité, donc ça coche quand même pas mal de cases qui semblaient importantes. Il y a du hot loading aussi, ce qui peut être pas mal, vu que comme tu le disais, si tu mets du temps pour reboot ton truc avec une telle fréquence, ça peut être un peu chiant, tu vois.
En gros, si je dis pas de conneries, ça veut dire que tu vas patcher ton application alors qu'elle est encore en train de tourner.
Running.
Ouais, je me chierais dessus à l'idée de faire un truc pareil, mais...
Ça conserve le contexte. C'est incroyable.
Ça paraît impossible, mais j'imagine, bravo à eux.
Ça marche en front-end. Je suis là déjà, je me gargarise. Je me dis, wow, ça a gardé ce que j'avais écrit dans le formulaire et tout. Mais là, ça le fait à l'échelle de serveurs, de cochons. Là. Bref, c'est une dinguerie. Et pour la petite anecdote, Erlang, ça a été développé par Ericsson.
Non.
Ericsson, c'est une boîte qui vient d'où?
Moi, je connais juste que... Je sais juste que ma maman, elle avait un téléphone Ericsson. Sony Ericsson,
ouais, c'était ça, ouais.
Et je jouais à des jeux de tennis dessus.
Absolument.
c'est tout ce que je sais de ce mot.
Mais moi, je...
Avec R, hein. Ericsson, Erlang, c'est pour ça que ça s'appelle Erlang, en fait, non?
Peut-être, justement, c'était ça.
Enfin, j'ai résolu le mystère du monde, là, c'est alors la fin de One Piece, là.
Peut-être qu'aussi Ericsson, c'est une boîte norvégienne avec des mots chelous comme Erlang, Edjabab, je sais pas quoi. Ça fait 3 jours que je prépare cette chronique et je vous promets que Edjabird, j'arrive pas à le retenir. Edjabird, c'est quand même. Merci.
Mais ça fait scandinave.
Mais c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc ça se trouve, Ericsson, c'est une boîte du Nord là-bas et ils ont inventé Erlang. Bref, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Erlang? En fait, ils ont une virtual machine qui supporte les green threads. Et qu'est-ce que c'est les green threads? C'est des threads, enfin c'est une manière plus efficace de faire du multithreading, en fait, beaucoup plus performante que le C++, t'en parlais un petit peu tout à l'heure et tout. Ben voilà, c'est beaucoup plus performant pour faire ça. Ne me demandez pas de rentrer dans les détails, je serais mauvais là-dedans, mais en tout cas, pour ce qu'ils voulaient faire, c'était hyper stylé.
Et en 4 secondes, vous pouvez juste vous dire que ça correspond à effectuer beaucoup de tâches en parallèle.
Exactement.
Ce qui est très important pour gérer des milliards de messages en même temps.
Absolument. Donc, ça a été un gros succès, en fait, d'utiliser Erlang. Ça a été très bien. Ils ont pu se greffer très facilement à ce qui existait déjà. Et en plus, le langage était finalement très bien taillé pour leur truc. Et pour le coup, on peut se dire, par contre, que ça aurait pu poser des problèmes de recrutement. Tu sais, quand t'as un langage trop obscur, tu trouves personne pour recruter dans ta boîte, quoi. Aujourd'hui, recruter un développeur Cobold, par exemple, c'est un peu chiant, tu vois. Tu vas galérer un peu.
C'est ton papy qui arrive.
c'est ça. Et pareil, nous, dans la boîte dans laquelle j'étais avant, on était sur Angular. Et bien, rien que Angular par rapport à React, pour recruter, on voyait que c'était super chiant, quoi. Ça mettait, ça nous enlevait plein de candidats potentiels.
C'est pas assez hype.
Ouais. Et en fait, ça, c'est un vrai problème. Mais sauf que chez WhatsApp, ils s'en foutent. Ils étaient 32. Ils n'en avaient rien à foutre du recrutement, en fait. Donc, c'était un non-problème.
Il y avait déjà tous les développeurs Erlang dans la boîte.
Ouais, bah c'est eux, ils sont 32.
Exactement. Et alors, petit mot du CEO, là, de comment il s'appelle Putain, j'oublie toujours leur nom. Hein. Le deuxième, du coup, Acton. Acton, lui, il a dit, bon, écoutez, en vrai, on est parti à fond sur Erlang. S'il y avait eu un problème à un moment donné, si ça avait été plus assez performant, on aurait switché sur un autre langage, pas de problème, etc. Mais on n'a jamais eu besoin de faire cette transition tellement Erlang, finalement, c'était trop bien foutu et ça répondait trop à nos besoins. Donc, en fait, on a gardé ça toute notre vie. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Peut-être que depuis que c'est...
Ouais. Je crois. Hein.
Peut-être.
Info chat, dites-nous, mais je crois.
À confirmer.
Pose quoi la question ?
Si c'est toujours en prod aujourd'hui,
chez WhatsApp.
Leur choix technique, est-ce que... Le framework, je sais pas, mais de ce que j'avais lu, il me semble que c'était toujours du Erlang. Ouais, c'est toujours le cas.
Ok, fabuleux. Eh bien, voilà pour le langage, en tout cas. Voilà pour Erlang, ce langage qui écorche les oreilles. C'est cool. Je suis très content de connaître ça. Ça va beaucoup me servir dans les soirées.
Peut-être que ça te sera utile un jour.
C'est. Oui. Je t'écris. Le jour où ça me sert quelque part, le Erlang, franchement, je t'envoie une missive. Bref, c'est beau tout ça, c'est très bien. Mais ça tourne sur quoi, d'après vous, les serveurs de WhatsApp? Maintenant, on va parler un petit peu infra, quoi. Ça tourne sur quoi?
Comment ça, sur quel système?
Pardon, excusez-moi.
Excusez-moi, monsieur, parce qu'il faut être précis, en fait.
Pas quelle machine, mais quel OS.
Ok.
Ça doit être un truc obscur, j'imagine, comme tous les trucs
c'est
de WhatsApp.
Windows.
ROS ou...
C'est pas Windows.
C'est pas Windows.
Voilà, donc ça, c'est out of the question. Du coup, c'est un Unix quelque chose.
Oui.
Est-ce que c'est un Linux?
On aurait pu se dire que oui, mais ça, Acton, il a dit Linux, ça fait chier, trop de friction, ça pète les chips, trop de distrib et tout le bordel, fuck. Donc
FreeBSD. Là, il faut dire la réponse. Ouais, voilà, ça, c'est FreeBSD, je pense.
Mais vous connaissez ou...
Non, mais il reste pas grand-chose.
Non, mais tu connais FreeBSD?
Bah oui, bah enfin, je sais pas.
Mais c'est normal, tout le monde connaît FreeBSD. Personne connaît FreeBSD. Vous connaissez dans le chat FreeBSD?
On va voir.
Benjamin, je suis dans ta team.
Ah, attends, tout va bien, tout va bien.
Regarde, le logo de la boîte, c'est en ASCII. Merci, ça veut rien dire. Bon, bref, je vais arrêter de m'énerver. Mais en tout
pareil,
cas, voilà.
Pareil, très très niche en vrai.
Ouais, c'est un peu niche, ouais.
Absolument
moins
niche.
Que...
Mais moins qu'on oui, le pense. Utilisé plus qu'on ne le pense par des gros noms de la tech. Bah oui. Mais on va en parler. Donc, Linux, trop de friction. Donc, FreeBSD. Pourquoi FreeBSD? Bah, déjà, il faut savoir que nos deux larrons, là, ils viennent de Yahoo. Et en fait, c'était utilisé à Yahoo, en fait. Donc, pareil, ils n'ont pas voulu complexifier la chose. Ils ont dit, vas-y, on utilise ça, c'est stylé, on connaît, on repart là-dessus. Surtout, c'est que, aussi, pour tout ce qui est réseau, c'est une des stacks les plus fiables en tout ce qui concerne réseau. Donc, forcément, réseau de télécommunications, ça fait sens. Juste que, voilà, FreeBSD, c'était bien, mais pour gérer le bousin que c'est de gérer autant de connexions simultanées à une application, ils se sont quand même permis d'aller modifier un petit peu le noyau de FreeBSD, rien que ça, en fait.
Pour micro-optimiser leur truc.
Ouais, grave.
Mais quand t'es à ce niveau-là, ça veut dire que... Ouais.
Non, là, j'ai failli hype down le truc, mais...
Non, vas-y, hype down le temps que tu veux.
C'est pas... Enfin, c'est un truc que t'as dû faire aussi, tu sais, edit les U-limit et tout. Je pense que c'est ça, c'est
tu ça. Crois que c'est juste ça.
Je pense
que
c'est genre...
Je crois que c'est un peu plus complexe, hein, ça a l'air d'être badass, hein, ce qu'ils ont fait.
Ils ont dû modifier la code base. Si ils le disent.
Ah ouais, tu penses,
bah
ouais,
oui. Oui, ils disent carrément éditer le noyau. Ils disent éditer le noyau.
Non, ouais, ok.
Une config.
Il aurait juste.
Ce serait pas gargarisé en mode on a fait
juste du fine tuning. Ok.
Je pense qu'ils ont dû vraiment adapter l'OS à leurs besoins, ouais.
Bien sûr, ouais, c'est sûr.
Ok, et trop bien.
Donc, ouais, voilà, ils ont pris le truc qui était déjà badass quand même et ils l'ont amené plus loin. C'est pour vous dire à quel point c'est gros WhatsApp et pour vous dire à quel point c'était pas des cons qui ont été refusés chez Facebook quand même, tu vois. c'était pas des tâches, quoi. Et je suis pas sûr que chez Facebook tout le monde était plus fort qu'eux. Enfin, j'ai du mal à le croire. Mais peut-être par contre qu'ils se lavaient pas, qu'ils sentaient pas bon le jour. Non, mais tu sais, ça se base sur tellement de trucs à l'entretien chez Facebook que tu peux pas savoir. En tout cas, ils ont été rocals, ces losers. Bien fait pour leur gueule. Voilà. Mais
et
on va voir.
Sans ça, on n'aurait pas WhatsApp.
Sans ça, on n'aurait pas WhatsApp. On serait encore en train de s'envoyer des papiers avec des sarbacanes.
Écrire au format SMS pour que ce soit plus petit.
L'horreur. Je déteste cette époque de ma vie où je devais calculer. J'ai l'impression d'être sur Twitter. Horrible. Alors. Et oui, on disait plutôt que c'était utilisé par pas mal d'acteurs. C'est notamment utilisé par Netflix aussi. Donc, et probablement d'autres, mais Netflix, c'est déjà suffisamment. Ça parle suffisamment aux gens pour se dire ah ouais, FreeBSD, c'est quand même un énorme truc. Donc voilà, on a vu ce qu'ils ont mis en place pour faire un scaling de qualité. On a vu ce qu'ils ont mis en place comme langage de programmation, ce qu'ils avaient comme système d'exploitation. Ça les a menés où tout ce bazar ? Parce que ouais.
Bien beau.
C'est bien beau tout ça, mais pourquoi ils ont rené à ce point ?
Surtout, il y a une grosse question que le chat a posée.
Oui.
C'est comment ils gagnent de l'argent ? Parce que même si tout est hyper optimisé, des milliards de messages à traiter.
C'est vrai que j'ai oublié une petite anecdote qui va probablement pas répondre à la question, mais qui va répondre à une idée du business plan qu'ils avaient au départ. Au départ, apparemment, la première année, là en 2009, puis en 2002, enfin 10, 11 et 12, la première année était gratuite et après c'était 99 centimes par an.
Ah ouais ?
Sauf que apparemment, ils t'offraient, dans plein de cas assez faciles, ils t'offraient la deuxième année, et puis je crois que la troisième année, ils ont carrément retiré le paiement. Donc en fait, j'aimerais bien trouver sur cette planète quelqu'un qui a payé WhatsApp. Si dans le chat, il y a quelqu'un qui a payé WhatsApp en 2009, vous pouvez le mettre en VIP direct ou je ne sais quoi, parce que c'est une légende. Je crois que ça rentre dans la même catégorie des gens qui ont payé WinRAR. Pour moi, c'est un peu ça.
C'est le même tiers.
C'est les mêmes personnes, même.
Ils ont un groupe Facebook.
Probablement. Non, en tout cas, c'est vrai que le chat pose une question très pertinente que j'ai oublié de me poser. Moi, j'en sais rien. Pour tout vous dire, je ne sais pas sur quoi.
C'est tellement beau qu'on s'en foutait de l'aspect financier. C'est quand même...
Et je pense que c'est encore beaucoup le cas. C'est-à-dire que tu peux faire un produit juste. Si il répond à suffisamment de gens, des gens vont te financer avant même que tu gagnes un moins un centime, c'est possible.
Sauf qu'au bout d'un moment, il faut les rembourser, ces gens.
Ouais, tout
ouais,
à fait.
Ouais.
Fin de la phrase.
Ouais. Même, quand tu fais un truc sécurisé, qui ne vend pas de data, qui stocke rien, qui machin, t'as quoi à vendre au final? Je sais pas.
On ne sait pas, mais...
Mais, c'est là que je voulais en venir. Mais en 2000... qu'est-ce que j'ai dit ? En 2013, du coup, donc soit 4 ans seulement après la création de WhatsApp, il y a Google qui débarque et qui dit « Les gars, c'est pas mal ce que vous avez fait. Ils ont peut-être une idée meilleure que nous pour rentabiliser ce projet. » Et du coup, ils disent « On va vous proposer 1 milliard de dollars pour vous racheter WhatsApp. » Et là, tu te dis, ouais, ça fait que 4 ans qu'on est dessus, 1 milliard, c'est pas mal, tu vois. Genre, tu te dis, on n'est que 32 en plus, se partager tout ça, c'est stylé. Ben là, ils disent non. Il faut en avoir une bassine de coronets assez grande.
J'allais te dire, mais tu t'es trompé, t'as dit Google, alors que...
Mais, en 2013, c'est Google qui débarque, qui leur propose 1 milliard, et ils disent non. Tu fais bon, ok. Google, lui, il est reparti la queue entre les jambes comme ça et tout. Et du coup, les gars, ils ont continué de taffer un an de plus sur leur bail. Et là, ding dong, toc toc toc, c'est une autre boîte qui tape à la porte. Et c'est là toute l'ironie du destin, l'ironie du sort, c'est là l'esprit shonen, c'est là tout ce que vous voulez imaginer ou quoi que ce soit. C'est qui tape à la porte ? C'est les gens qui les avaient recalés à l'époque. C'est Facebook. Tu m'as dit Mark Zuckerberg, ça m'a dit Facebook. C'est Mark Zuckerberg, Facebook, qui tape à la porte. Et là, qui propose pas 1 milliard. Qui propose directement la bagatelle de... Est-ce que... Ouais, dans le chat, il y a probablement des gens qui disent non, donc on va pas se faire spoiler, je vais le dire tout de suite. Mark débarque et il propose 19 milliards de dollars.
Mais non.
19 fois plus que Google un an plus tôt. Quand même.
Un an, et ouais, un an plus tôt. Ouais. Donc en un an, ils ont fait x19. C'est pas mal. C'est une boîte qui grossit vite, quoi. Et là, bah, devant 19 milliards de dollars, sachant que t'as aucune idée, t'as aucune idée de comment rentabiliser ton bazar. Je sais pas comment tu les payes, tes 32 bonhommes, etc. Mais tu te dis, ouais, là quand même, ça rigole pas. Donc là, les deux CEO, ils acceptent le deal. Et je pense qu'aussi, il y a un petit point d'ego qui leur dit, allez, on se venge de Facebook, on relave notre honneur, on sort du club des losers. Et ils finissent finalement par se faire embaucher par Facebook, parce que quand ils se font racheter, ils vont travailler encore un an ou deux pour Facebook, en gros. Enfin, ils vont travailler pour WhatsApp, mais chapeautés désormais par Facebook. Mais avec tous les changements que veulent opérer Facebook sur la confidentialité, sur les données des utilisateurs, etc., ben, ça crée trop de dissidents. Et les deux gars décident de se barrer. En fait, ils disent, non, nous, c'est pas pour ça qu'on a créé WhatsApp. Ça ne correspond plus à qui nous sommes, à notre vision du produit. Donc, on s'en va.
Est-ce qu'on peut pas dire, finalement, que cette histoire, c'est la stratégie pour se faire embaucher la plus déterre de toute l'histoire?
Bah, là, si c'était ça le end goal, si vraiment il voulait juste se faire embaucher pour pouvoir
démissionner
à la
non,
tête
c'est
haute.
Moi qui pars.
Là, les gars, ils sont très très stylés. Gros respect à vous. WhatsApp, on s'en branle à côté. Hein. C'est beaucoup plus stylé, cette leçon de vie qu'ils nous ont donnée ici.
Incroyable.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas arrêtés là, ils ne sont pas partis que la tête haute. Je pense que l'Ukrainien Yann, je ne veux pas écorcher son nom, ça ne se fait pas. Donc, Yann Koum, lui, je pense qu'il a pris sa retraite, mais en prenant sa retraite, il a juste fait un don de 1 million de dollars à FreeBSD, qui les a bien carrés comme ça tout le long. Donc, petit don comme ça. Et l'autre, Acton. Ben lui, qui était vraiment pas content de ce qui était advenu de WhatsApp depuis qu'il s'était fait racheter, il a pris 50 millions de sa fortune personnelle, il les a investis dans une nouvelle fondation dont le nom va vous être familier. Il a créé la fondation Signal et en gros, il a recréé un WhatsApp. Vous savez pas?
Non.
Mais c'est lui qui a créé la fondation Signal et en fait, il s'est dit pour que plus jamais l'idée de fou que j'ai de système de messagerie que je crée ne puisse jamais se faire racheter par quiconque. Signal sera inrachetable. Ça reprendra les bases de WhatsApp comme on les imaginait au départ et juste inrachetable. Donc sécurisé, pas de conservation des données, pas de vente de données, etc. Machin.
Et par définition.
Et monté d'une telle sorte.
Ça n'a pas de valeur que.
Voilà, que ça ne peut pas se faire acheter, ou alors c'est que c'est en peer-to-peer, ou enfin, je ne sais pas comment c'est branlé. C'est
des avocats juridiques. Voilà. Mais en tout cas, c'est la version idéale qu'il aurait aimé créer en fait, avec WhatsApp.
Voilà. Une fois qu'il avait plein de thunes, il s'est dit, vas-y, je remets.
Il a quand même pris l'argent, du coup, c'est un big boss, parce qu'en soi, oui, il a pris l'argent, il s'est barré, il a refait le même truc.
Ouais, il a probablement un gros pécule encore sous son lit. Hein. 50 millions, ça devait être une crotte de nez à côté de tout ce qu'il a de côté. Mais du coup, il a quand même relancé ce bazar. Et c'est hyper bien. Signal, moi, j'utilise le plus souvent possible. Et là, c'est difficile de convertir tout le monde à Signal. Mais les initiés, bah, je prends un plaisir fou. Lui, il est trop belle, en fait. C'est WhatsApp avec une UI beaucoup plus belle.
Je me demande en vrai si quand même, il a pas un tout petit fond de regret qui l'a peut-être motivé à lancer au Signal, tu vois. Parce que mine de rien, quand il réfléchit, ils avaient une base d'utilisateurs de plus d'un milliard de gens. Mm-hmm. Et même si eux, à leur époque, ils avaient vraiment une maîtrise du chiffrement, etc., qui était sans faille, mine de rien, ils ont transféré cette base d'utilisateurs à Facebook. Et on sait qu'après, les décisions qui ont été prises n'ont évidemment pas cassé le chiffrement de bout en bout, mais ont été plus... Voilà, plus délicate sur les métadonnées et la collecte de données. Donc, si ça se trouve, en faisant cette vente, je me demande s'ils n'ont pas un petit fond d'eux qui ont eu l'impression de faire un pacte avec le diable, tu vois.
Ah, très probablement, très probablement. Il a dû s'en mordre les doigts, le gars. C'est pour ça qu'il avait voulu se racheter une conscience en recréant Signal. Et avec tous les ingrédients qu'il y avait à l'époque dans WhatsApp, sauf qu'à l'époque, WhatsApp, c'était unique. Aujourd'hui, Signal... Ça ressemble trop fortement à WhatsApp pour convaincre
devenir l'hégémonie, mais en tout cas ça
marche bien quand même Signal, parce que finalement tu sais, tout le monde connaît plus ou moins et tout,
c'est vrai
c'est genre c'est pas WhatsApp mais c'est pas rien quoi.
Bah ceux qui font encore attention à la sécurité et au chiffrement de leurs affaires, bah eux ils sont encore là-dessus.
Il me semble que ça fait partie des deux systèmes de messagerie qui sont recommandés par Edward Snowden. Il me semble que c'est Signal et Matrix. Okay. Pour moi, c'est les deux que je connais.
De toute façon, ils tournent tous sur Edja Bird, Edja machin, on sait quoi.
Comment il s'appelle ? Il y a un truc français qui est vraiment pas mal.
Matrix. Non, c'est pas ça ? Sûr.
Non, Matrix, c'est... T'es sûr que c'est français ?
Non, c'est...
Quelqu'un me...
En tout cas, c'est utilisé par le gouvernement français, okay. Matrix.
Olvid.
Olvid, j'ai parlé. Okay. C'est quoi ça ?
Olvid, si je dis pas de conneries, vous me reprenez le chat, mais c'est un équivalent de Signal, ouais. Où t'as même pas de numéro à fournir. Parce que d'accord. Mine de rien, ouais. La seule faiblesse de Signal, c'est que t'as un numéro de téléphone, ouais. À fournir.
Ah, c'est quoi ? C'est clé publique, clé privée carrément ?
Je crois que c'est un système de username, ouais, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment sans numéro de téléphone, et c'est français, et c'est open source, et c'est très cool.
Et le nom
c'est
est
de trouver des...
Le nom est dramatique. Oldvid, pour une application de messagerie, c'est hyper nul.
Ouais.
Elle est plutôt... Olvid.
À beaucoup de gens.
Vous avez un jingle ou
je me permets juste de rajouter une petite information comme ça par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous ouais. M'entendez pas là ? Si, c'est bon,
si,
tout le monde
oui.
Entend. Oui, je me permets de rajouter une petite information sur le business model de WhatsApp. Donc avant la revente à Facebook, l'application coûtait 1$ au téléchargement et coûtait aussi 1$ d'abonnement. Et une fois que ça a été racheté par Facebook, ils ont coupé ça. Et maintenant, ils ont fait un WhatsApp business. Et c'est ça qui est la machine à cash de WhatsApp.
Oh.
Bah, yes. C'est OK, la version B2B payante et la version B2C ouais. Gratos.
Ouais, c'est ça.
Classique.
Effectivement, c'est assez classique.
Très classique, ouais.
Mais effectivement, j'ai entendu parler de ce WhatsApp business.
Ouais.
Et de ce que j'ai compris, c'est une manière de gérer un service client, par exemple, ou un truc comme
d'accord.
Ça.
D'accord. Ah oui, oui.
Avec une interface centralisée pour,
ouais.
Et du traitement semi-automatisé pour tes agents qui traitent les demandes.
Groupes d'entreprises.
En France, on n'utilise pas beaucoup ce truc-là, mais en Espagne, par exemple, il y a énormément de structures que tu contactes directement par un numéro WhatsApp, en fait. Et après, t'es redirigé vers les bons trucs, et sûrement que t'as un truc écrit en base de données, etc. Donc, effectivement, là, c'est WhatsApp business. Mais c'est vrai qu'en France, on ne l'a pas trop vu passer, ce truc-là, je pense.
Apparemment, le Red utilise Olvid, par exemple.
Le Red.
La police. C'est pas du tout la police, d'accord. Mais en disant ça, t'as compris.
L'antiterrorisme. Donc, ça vient souligner ce que j'allais dire sur le fait que l'usage de ce genre d'appli comme Olvid, c'est pas tellement de retrouver tous tes potes comme sur Facebook ou je sais pas quoi. C'est plutôt
c'est
dans.
La police.
Ah si, j'avais un truc super.
Je suis désolé. Vas-y.
Non, c'est plutôt dans un cadre très restreint. J'entends, je sais pas, une entreprise où c'est vraiment critique et où là tu peux imposer à tout le monde. Ok, c'est le nouveau. Par exemple, au gouvernement, tu peux imposer. Tu pourrais, ce serait bien, n'est-ce pas, d'imposer. Ok, ce sera ça la messagerie utilisée plutôt que Telegram, par exemple.
Ouais.
Voilà.
Stylé.
En tout cas, c'était hyper intéressant. Il y a des trucs qu'on savait. T'as vu? Mais en vrai, il y a quand même plein de trucs qu'on a découvert.
Oui.
C'était hyper intéressant.
Moi, ouais. j'étais frustré. J'ai l'impression que vous connaissiez absolument toute la chronique. Du coup, j'avais gardé des petits trucs. Et...
Bah, rien que le fait que le co-founder, il a fait Signal, oui. on n'avait aucune idée. Et c'est hyper cool.
Il a fallu que j'arrive à la fin de la chronique pour que vous fassiez « C'est pas vrai !» Et là, je me dis bah, « il surjoue, tu sais, et tout. »
Je te jure que non.
D'accord. Mais en tout cas, c'était trop cool. J'adore présenter des chroniques.
Bah, franchement, c'était hyper, hyper intéressant. N'hésitez pas, vous, Mathieu.
Bah, tu l'as refait ?
Ouais, on
est chaud, allez, on repart.
Deuxième. Prise de.
Laissez-moi.
Le chat dit que c'était incroyable. Merci.
Merci, le chat.
Clairement, tu es le bienvenu pour refaire ce genre de format où on est très, très, très friands. Et voilà, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. C'est un format qu'on teste, évidemment.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.